Transhumance.
Ce soir, la ville de Bijaya. L'Irak, Bagdad et toutes les villes d'Orient sont désormais éclipsées. Aucune d'elles n'est aujourd'hui à Nasriya comparable. La terre, la mer, les vagues et les eaux de ces innombrables sources y composent une fresque unique qui vous affranchit de votre spleen. Noblesse des sentiments et pureté de l'air se sont en ce lieu donné rendez-vous pour l'ériger en havre de richesse, de gloire et de douceur de vivre. Tel un serpent argenté, son fleuve coule au milieu des jardins suspendus, avant que d'enlacer le miroir éclatant de la mer dont il forme l'ondulante poignée. Là où portera votre regard, la majesté et l'éloquence vous éblouissent. Si tu considères la campagne, tu la vois emmaillée de fleurs. Si tu t'attardes sur la mer, tu es charmé par la course de ces vagues qui se bousculent l'une l'autre pour le privilège de baigner ces terres. Ô vous qui insistez pour découvrir cette ville, soyez équitable. Dites, c'est le jardin d'Éden, que Dieu y fixe pour l'éternité le séjour de ma famille et de ma descendance. C'est par ce texte poétique superbe qu'un grand poète constantinois du XIIIe siècle, Abu Ali Hassan ben Lefghoum al-Qasantini, a essayé dans le style dithyrambique cher à la poésie arabe de restituer la fascination et l'éblouissement de sa rencontre avec Nasriya, Bijaya actuelle, qui était à l'époque capitale de la dynastie arabo-berbère des Bani Hammad. 7 siècles avant Albert Camus, qui célébra dans un autre style littéraire ses noces à Tipaza, notre poète de Constantine a parfaitement su exprimer avec la charge émotionnelle la plus vraie, la forte impression que ne manque pas de laisser Bijaya sur tout visiteur qui prend le soin de faire le tour de ses multiples richesses et le détour de ses innombrables facettes. C'est cette performance redoutable que nous avons tenté de réaliser pour les auditeurs de Transhumance en cette fin de l'été de l'année 2000.
L'histoire d'une ville se découvre à travers sa structure urbaine, on y apprend autant, sinon plus en se promenant à travers les quartiers qu'en consultant les archives qui comptent son vécu. Il en est ainsi de Bijaya, ville à la fois vieille et neuve, ouverte à l'avenir mais encore empreinte de son glorieux passé. l'espace de quelques minutes pour replonger, pour en parler de Béjaïa, de sa région, à travers les âges, histoire, société, sciences et culture. Ancienne colonie romaine, la ville entamera sa mue en 1117 avec l'apparition d'Abdelrahman ibn Tumult, à l'origine de la fondation de la dynastie Al-Muhad, siège d'une principauté hafside au XIVe siècle. Elle fut successivement occupée par les Espagnols, au XVIe siècle les Turcs et les Français en 1833. D'importantes personnalités scientifiques, littéraires et religieuses sont apparues et qui ont aussi imprégné un prestige évident la région. Ainsi en est le cas du métaphysicien Ibn al-Arabi, le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, du philosophe catalan Raymond Lull, l'historien Ibn Khaldun ou le théologien Sidi Boumediene, ou le voyageur impénitent qui était Ibn Battuta. Donc pour dépoussiérer tout au fond tout ce fond documentaire, il nous faudrait des heures et des heures de radio. Pour en parler, monsieur Aïssani, qui est président également de l'association JIMAB de Béjaïa, créée donc en 1991, c'est un groupe d'études sur l'histoire des mathématiques à Béjaïa, doyen de faculté des sciences de l'ingénieur et professeur de mathématiques. Monsieur Aïssani, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, Sahid. Alors, ville de Béjaïa, c'était une ville intéressante en 1067. Qu'est-ce qu'elle était avant et qu'est-elle devenue après?
Oui, effectivement, c'est à partir de 1067 que la ville de Béjaïa est devenue une grande cité sur les rives de la Méditerranée. Et c'est à partir de ce moment que se sont déroulés dans cette ville des événements importants qui ont marqué le développement de la connaissance. Avant, c'était un petit village, j'allais dire andalou. Je ne parle pas de ce qui s'est passé, bien sûr, à l'époque préhistorique, à l'époque punique et à l'époque romaine. Hein. Je crois que vous en avez déjà parlé.
Non, justement, pour la petite histoire, non, justement. Donc, elle était intéressante à l'échelle mondiale, la ville de Béjaïa.
Oui, parce que...
Justement, qu'est-ce qui a fait qu'elle soit devenue aussi importante?
Parce que elle était... il y avait plusieurs aspects qui étaient importants. Il y a, bien sûr, les activités politiques, les activités de commerce, les activités religieuses. Tout était lié.
Le relief aussi, le site, qui est un relief quand même exceptionnel pour la région.
Je crois qu'on peut pas. On n'a pas suffisamment de temps pour expliquer comment ça se fait. Comment Béjaïa donc est devenue la capitale des Hamadites. Ce n'est pas simplement ça. Hein. Il y a des aspects, j'allais dire, liés à l'histoire qui a fait que le prince Al-Nasr a choisi Béjaïa pour être le siège de sa capitale. Mm-hmm. Mais effectivement, le siège a joué.
Ils concourent. Le relief a concouru encore une fois à ces dimensions.
Disons. Bien entendu.
Mais au départ, déjà, c'était pour fuir un petit peu les coups de boutoir des tribus hilaliennes qui circulaient, selon les indications des historiens, plutôt sur les hauts plateaux. Donc de rentrer par la vallée de la Soumam avec les monts du Djurdjura et les Babors, ça faisait une espèce de protection naturelle,
contre les
incursions hilaliennes.
Exact. C'est la pression sur la Qala'a d'Ibn Hamad qui a fait que le prince Al-Nasr a pris cette décision de transférer sa capitale.
C'est un peu comme, c'est aussi la beauté du site, parce que c'est toujours important, c'est un peu la beauté du site, et surtout vis-à-vis de la mer aussi, donc une anse naturelle tout à fait protégée et qui permettait...
Absolument.
Monsieur Aïssani, pour la grande histoire, est-ce que vous pourriez nous énumérer tous les passages des civilisations qui sont passées à Béjaïa? Pour les auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas Béjaïa, qui a fait la grandeur de la ville, on sait qu'à un moment, elle fut une capitale. Alors, est-ce que vous pouvez les énumérer, toutes ces civilisations qui se sont succédées?
Bon, il y a la période intéressante, c'est la période préhistorique.
Oui.
Ensuite, il y a eu la période punique. Nous avons d'ailleurs, je ne sais pas si on vous a parlé du caveau punique qui existe sur la route des Aiguades, qui est très peu connu. Ensuite, il y a eu la période romaine. La semaine passée, nous avons reçu l'ambassadeur d'Italie donc à Alger, qui a visité l'aqueduc de Touja. Ensuite, il y a eu la grande période, donc c'est la période médiévale.
Oui.
D'abord, la période hamadite. Ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la période almohade, hein, avec Ibn Tumert, et la période hafsite. Après l'occupation de la ville par les Espagnols, au XVIe siècle, en 1555, donc, les Turcs sont installés dans la ville jusqu'en 1833.
Mmh. Voilà. Donc ce sont des périodes qui se sont succédées. Est-ce qu'on peut avoir la datation? Est-ce qu'ils sont restés à des périodes de... Est-ce qu'on connaît leur période?
Nous savons qu'il y a des périodes qui ont été, j'allais dire, florissantes, pendant laquelle la ville a été florissante. Mmh. C'est la période hamadite. C'est la période hafsite. Par contre, nous savons que la période turque est une période qui n'a pas été florissante pour notre ville parce qu'elle a perdu son statut de capitale, même si on continuait à construire dans des bateaux, etc. Mais bon, mm-hmm. De manière globale, bien sûr, la période la plus dévastatrice est la période espagnole.
Mais vous nous disiez tout à l'heure que 1067 était la période la plus belle, où sur le plan, à l'échelle mondiale, elle était reconnue. Qu'est-ce qui s'était passé à cette période-là?
En 1067, c'est la période où le prince Al-Nasr a transféré sa capitale de la Qalaat ibn Ahmed à Béjaïa. Donc, Béjaïa donc, devient capitale de...
De pratiquement la moitié de l'Est algérien actuel.
Voilà.
Y compris Alger, qui voilà. Était sous...
Ouais. Donc, ensuite, elle devient, à l'époque, Al-Mohad, c'est, si vous voulez, une ville de province, d'un empire. L'empire Al-Mohad, qui s'étendait pratiquement de la Tunisie jusqu'à l'Andalousie. Et ensuite, la période Hafsite, où elle redevient quand même capitale d'un pays quand même indépendant, etc. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'à cette époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes donc à l'époque médiévale. L'Amérique n'est pas encore découverte. Donc, la Méditerranée... Et un espace qui est très important. Qui est très important. Et du point de vue commercial, du point de vue intellectuel, il y a de très nombreuses relations entre pays. Béjaïa a des rapports privilégiés avec les républiques italiennes. Pise, Venise, Gênes, etc. Elle a des rapports avec la Sicile. Elle a des rapports avec l'Occident musulman, c'est-à-dire l'Andalousie et le Maroc actuel, et avec la Tunisie. Les savants circulent entre les villes importantes de tout cet espace. Les connaissances circulent. Des événements importants se déroulent, comme par exemple... il n'était pas, j'allais dire, surprenant de savoir que le prince Al-Nasr reçoive en 1076 une lettre du pape Grégoire VII. Donc, si vous voulez, tout ça...
Donc, c'est la philosophie, sont les mathématiques, on y trouvait tout ça à cette époque-là.
Oui, c'est tout ça.
Le royaume hamadite, la capitale, avait un statut de capitale et était considéré comme tel. D'ailleurs, je crois que Al-Nasr, comme un peu les têtes pensantes du monde musulman, avait un surnom, on disait Nazir, je crois. C'est-à-dire, on avait un petit peu européanisé son nom, latinisé en tous les cas. Donc ce qui fait que le pape Grégoire le considérait comme un acteur incontournable de tout ce qui se passait au niveau de la Méditerranée. C'est justement à ce moment-là, je crois, pendant cette période, et là on rejoint tout à fait l'une de vos premières préoccupations en tant que mathématicien, qu'il s'est passé quelque chose d'assez important dans l'histoire des mathématiques et de...
Donc, un jalon important dans l'histoire de Biaya, je pense, c'est l'épisode de Fibonacci. Ouais.
Oui, l'épisode Fibonacci est le plus important. Mm-hmm. C'est d'ailleurs, je dois le dire, l'épisode qui a été à l'origine de la création de notre association, parce qu'on avait quelque chose de concret. Hein. Ce qu'il y a, c'est que il vient à Béjaïa, donc, parce que son père était le représentant des marchands italiens, donc auprès de la douane, et il vient pour apprendre les méthodes de calcul, les techniques commerciales des pays de l'islam.
Alors, rappelez la période, comme ça les gens...
Ça se passe à la fin du XIIe siècle.
Oui. Hein?
Ça se passe à la fin du XIIe siècle. On ne le sait pas de manière exacte, mais on pense que ça se passait aux environs de 1175-1180.
Oui. Donc un petit peu la période Almohad, ou un petit peu à la fin de la période Almohad, début de...
Exact. On ne sait pas exactement quel était son âge. Bon, on pense que ça tournait entre 13 et 17 ans. Mmh. Il vient à Béjaïa, donc, et il apprend les techniques commerciales, les méthodes de calcul des pays de l'islam. Et après, il repart en Europe, en Italie, et il essaye donc de convaincre les marchands et les autres que les méthodes de calcul des pays de l'islam sont plus performantes. Et cet événement est également important parce qu'il n'a pas, ça n'a pas été facile. Il y a eu une réticence.
Hein? Oui.
Il y a eu une réticence. Mais par la suite, les marchands mathématiciens ont compris que les chiffres arabes et que les méthodes de calcul étaient plus intéressantes, donc c'est à ce moment-là qu'ils les ont adoptées.
Mais à cette époque, bon, c'était quand même une époque cruciale, les échanges, quel était le domaine des échanges entre les deux rives de la Méditerranée? Est-ce que l'apport vers le nord de la Méditerranée concernait uniquement les mathématiques, où il y avait quand même d'autres échanges beaucoup plus fructueux?
Il y avait des échanges qui étaient plus fructueux depuis la période d'Anassar. Hein. Vous savez, si on essaye de s'intéresser à des points particuliers, on comprend... Je vous donne un exemple. Mm-hmm. Les seules informations que nous avons aujourd'hui sur les palais hamadites de Bougie, elles nous viennent du poème du célèbre poète sicilien Ibn Hamdis, mm-hmm, sur la description donc des palais hamadites. Il était venu à la fin du XIe siècle beaucoup plus pour fuir, parce qu'à l'époque il y avait des Normands qui s'étaient emparés donc de la Sicile. Mais pour nous, c'est important que d'un personnage pareil ait séjourné dans une ville comme Béjaïa.
Donc la période espagnole a été la période la plus terrible.
Oui.
C'était la période de combat, la période de...
On pense que c'est pendant cette période que la plupart des édifices importants de Bougie ont été détruits,
oui,
et qu'une partie des manuscrits, des écrits, des objets donc, qui se trouvaient ici ont disparu.
La période turque, c'était le déclin, le véritable déclin, ou alors...
Oui, c'est le déclin. Le déclin, sauf peut-être, bien sûr, si on s'intéresse à des aspects qui vous intéressent, je ne sais pas, peut-être il y a eu un apport, peut-être du point de vue culinaire, du point de vue, je ne sais pas moi.
Oui, en tout cas, sur le plan architectural, il n'y a rien eu.
Non. Les Turcs ont... bien sûr, construit sur les édifices laissés par les Espagnols. hein, comme par exemple la Casbah, ou bien comme, je ne sais pas. Mais dans, en tout cas, le répertoire que nous avons fait en 97, nous n'avons trouvé que deux édifices, hein, que l'on a attribués à la période turque.
Qui sont ?
Il y a en haut, d'abord au niveau de Cap Bouaq, hein, il y a un poste d'observation et il y a, je crois, un dépôt de munitions, toujours au niveau du parc du Gouraï.
Donc 1833, c'est la période aussi coloniale, c'est oui. Les Français. C'est... Aujourd'hui, est-ce qu'on a terminé avec l'histoire pour
Je pense qu'il y a aussi un personnage qu'on a oublié, qui a quand même marqué l'histoire de Béjaïa. C'est aussi Raymond Lull, qui était l'auteur de controverses restées célèbres. Est-ce que vous pouvez nous retracer rapidement son oui. parcours, son itinéraire?
Oui, Raymond Lull, semble-t-il. Hein, il aurait fait un premier séjour à Béjaïa en 1280, où il aurait appris des mathématiques. Mais bon, nous n'avons pas d'informations sur ça.
J'ai une question à vous poser, si vous permettez, M. Hessani. Cet enseignement, il se faisait en quelle langue? En arabe? Est-ce
en
que
arabe.
Ces personnes étaient arabisées?
En arabe, bien sûr.
D'accord, c'est une précision arabe. Importante.
Oui. Donc, y compris Leonardo Fibonacci a étudié en arabe.
Ah oui, je pense que, bon, même si je peux pas, je n'ai pas de preuves, mais ça ne pouvait pas se passer autrement.
Mm-hmm. Hein. Est-ce qu'il y a des écrits dont Leonardo a pu
le seul témoignage.
Trouver en Italie, est-ce qu'il y a des choses
Le seul témoignage que nous avons. Sur le séjour de Fibonacci à Béjaïa, c'est ce qu'il a écrit lui-même dans son livre, le Liber Abaci. C'est lui-même qui le dit.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que du point de vue source musulmane, il n'y en a pas. Il n'y a pas de source musulmane qui relate le séjour de Fibonacci, ni même d'ailleurs de Raymond Lull. Oui. Mais c'était un peu normal parce que Fibonacci à Bougie, c'était un petit. Petit garçon, c'était pas quelqu'un d'important. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est un peu normal.
Je vais rester sur sa fin, ça va être sur Raymond Lull. Alors qu'il était, c'est ce qu'on vous a interrompu à propos de.
Oui, Raymond Lull, donc son séjour célèbre, c'est celui de 1307. Bon, il y en a eu d'autres, hein, parce que je sais qu'il est revenu en 1315. Mais enfin, 1307, donc, il arrive à Bougie, et c'est là que, donc, effectivement, il a ses, lui, il utilise le mot le dispute. Ces disputes, c'est donc c'est les discussions avec les savants de Bougie. Bon, il faut le dire aussi. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il reste 6 mois, et ensuite, il repart, donc, en Europe, mais le navire qui le ramène à Pise, fait naufrage et il perd tout ce qu'il a, enfin ses écrits dans la tempête. Ce n'est que à Pise donc qu'il reconstitue ses discussions avec les savants de Bougie dans un livre d'ailleurs qui s'appelle La Disputatio. Hein. Bref, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était cette reconstitution, elle était destinée au pape donc d'Avignon, je crois, pour un projet de croisade. Pas, bien sûr, militaire, mais j'allais dire intellectuel. Et il faut prendre ce qu'il a écrit avec des pincettes, parce qu'il a beaucoup plus essayé d'encenser son action. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la portée philosophique de ces discussions. C'est extraordinaire.
Mmh. Voilà. Non, monsieur Hessani, je pense que oui, c'est vrai.
Moi,
que...
Moi, je voulais, oui. si tu permets, Malika, je voulais toujours, puisqu'on est dans le secteur de la science, monsieur Hessani, en tant qu'universitaire, un homme de science aussi important est passé à Bougie et, en tant qu'homme de science, a occupé des fonctions politiques. Il s'agit bien sûr du, comme on dit, du Allama Ibn Khaldoun. Alors, sur le passage d'Ibn Khaldoun à Bougie, parce qu'il a occupé le titre de chambellan du roi de Bougie, donc quasiment sa plus haute fonction politique.
Oui, oui, oui effectivement, Ibn Khaldoun est venu en 1352 à Bougie, mais effectivement, il revient en 65-66, je crois. L'origine donc, de ce séjour est politique, comme vous le dites. Il devient Premier ministre. Oui, ce passage est important. Hein. Ce passage est important Je vous en parlais tout à l'heure. Tout ce que Ibn Khaldoun a écrit sur l'histoire du Bougie, il l'a tiré du célèbre manuscrit de l'historien de Bougie Ibn Hammad, qui est aujourd'hui encore considéré comme perdu. Donc, ce qui veut dire que, à l'époque, donc, il avait consulté ce manuscrit. Lui-même, il le dit dans sa Muqaddima, hein, que chaque fois qu'il parle donc de l'histoire de Bougie, il dit Ibn Hammad fi tarikhuhu, etc. Et il y a tout un travail d'investigation qui a été fait au XIXe siècle concernant ce manuscrit, pour pouvoir l'identifier, parce que Ibn Hammad a écrit un autre manuscrit que nous avons sur les rois Ubaydat. Mais sur l'histoire de Bougie, ce manuscrit est perdu. D'ailleurs, de nombreuses personnes l'ont recherché. Dans les années 70, Mouloud Qassim a, je crois, demandé aux imams de la région de rechercher ce manuscrit.
Et il n'a pas encore été trouvé.
Il n'a pas encore été...
Alors, Ibn Khaldoun, qu'on peut... Aujourd'hui, on peut utiliser un terme pour le désigner, c'était un intellectuel. Est-ce qu'il a été un bon politique, d'après un bon Premier ministre?
Vous savez, en regardant l'histoire, il semble donc qu'il a, j'allais dire, non, je ne pense pas. Hein. D'ailleurs, à chaque fois, il renonçait.
Il renonçait, il partait. Donc, c'est ce que je voulais vous entendre
cela
dire.
Ça ne va pas de soi.
Les intellectuels ont toujours été de mauvais politiques.
On parle aussi d'un séjour qu'aurait effectué Ibn Arabi. Est-ce que vous pourriez nous confirmer ou nous infirmer cette information?
Oui, Ibn Arabi est venu à Cheikh Al-Akbar. Oui. Il s'agit d'un séjour important. Bon, il n'est pas resté longtemps parce qu'il allait vers la Mecque.
Donc c'était une zone aussi de transit entre l'Orient et l'Occident, la Mecque et l'Andalousie. Donc c'était une zone de confluence, de passage.
C'était une étape obligée. Mais ce qui est important concernant Ibn Arabi, c'est que Sidi Boumediene était... Sidi Boumediene, Ibn Arabi le considérait comme étant son
disciple.
Voilà. Donc, il en parle. Il parle de lui en termes élogieux. Et ça, c'est très important. Et vous savez quelle place occupe Ibn Arabi dans le soufisme occidental.
Est-ce qu'il a été d'un apport pour la région? A-t-il laissé des œuvres ou...
Non, le séjour d'Ibn Arabi à Bougie a été très court. D'ailleurs, je crois qu'il y en a deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a un qui est identifié. Pourquoi? Parce que juste après son passage à Bougie, il s'arrête à Tunis et il écrit dans cette ville un livre important. Un livre important. Et il y a tout un ensemble de personnes qui ont écrit sur cette période.
Donc il a fait un transit, contrairement à Sidi Boumediene qui a enseigné à Bougie.
Ah oui, bon, Sidi Boumediene, et il faut le dire, est un bougiote. Hein, il est resté ici pendant...
au grand regret des clavsiniens.
Oui.
Mais comme nous avons dit au départ, parler de l'histoire des heures et des heures ne suffirait pas. On peut parler de la ville de Tlemcen. Aujourd'hui, tout à l'heure, je constatais que vous disiez à chaque fois « Bougie, et non pas Béjaïa ». Pourquoi?
Parce que j'utilise le terme historique. C'est-à-dire que moi, c'est en termes de... si vous voulez, les historiens, quand ils parlent de Béjaïa, ils disent, j'allais dire, soit Bougie, soit les Italiens disent Bugia,
l'étymologie de...
Donc, chacun...
Vous savez pas pourquoi on a appelé ça Bougie?
Les Hamadites disent Nasiriya.
J'allais raconter la petite histoire des petites chandelles.
Non, j'allais vous renvoyer la question en vous disant pourquoi vous dites Alger en parlant de El Jazeera.
Oui, c'est vrai. Mais oui, on peut vous répondre. Aujourd'hui, avec tout ce passé riche, comment il est le Biaoui, comment il est le Bougiote
Si je me permets avant c'est que, si vous voulez, chaque ville qui a quelque chose d'important essaye de le garder. N'oublions pas que le mot Bougie, hein, a, comment dirais-je, a donné son nom aux petites chandelles. Hein? Oui. On a, pendant une bonne période, on a failli oublier cet événement qui est important, parce que maintenant, un mécanicien, lorsqu'il change des bougies, il ne sait pas pourquoi est-ce que ces, oui.
ces
petits...
Ces bougies s'appellent bougies.
Voilà.
Ouais. Donc, on aurait
lorsque,
pu parler. Oui,
lorsqu'on parle de l'eau de Javel, ou bien lorsqu'on parle de je ne sais pas quoi, on sait
oui,
d'où...
Hein
oui, oui, c'est vrai qu'on aurait beaucoup parlé sur la ville de Bougie, c'est comme ça que vous voulez qu'on l'appelle.
Non, de Béjaïa, préfère qu'on l'appelle Béjaïa, n'est-ce pas
Béjaïa.
Mais quand on parle d'histoire, c'est différent.
D'accord. Alors si on peut faire rapidement un retour en arrière concernant la période romaine, bon là, il y a quand même quelque chose qui nous a interpellés ce matin, parce qu'on a fait un reportage sur site, au niveau du fort espagnol. Donc on parlait de la période romaine, on parlait de Saldae. Alors il semblerait que l'origine étymologique du mot, personne ne la connaisse.
Je ne sais pas.
Voilà.
Donc c'est encore une grande question.
C'est tant mieux parce que toutes les villes, dans leur toponymie originelle, doivent garder une partie de secret, une partie d'énigmes, une partie de légende.
Alors, monsieur Aïssani,
alors ne l'aperçant pas.
Merci, monsieur Aïssani. On rappelle que vous êtes président de l'association GIMAB de Béjaïa, qui a été créée donc en 1991, qui est un groupe donc d'études sur l'histoire des mathématiques à Béjaïa. Vous êtes également doyen de faculté des sciences de l'ingénieur et professeur de mathématiques. Merci. Et bien sûr qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps pour parler de Béjaïa. C'est une histoire des 2000 et une nuits, c'est ça?
Oui, oui. Hein? Il y a effectivement de très belles histoires dans, qui se rattachent à cette ville. Il faut pour cela donc interroger les bibliothèques. Il faut discuter avec les spécialistes. Et il faut, à mon avis, faire un travail de vulgarisation pour faire connaître tout ça. Je crois que c'est important.
Après cet entretien sur l'histoire de Bougie, l'équipe de Transhumance s'est déplacée vers les grottes d'Afalou, qui sont situées à environ 35 km de Bjeya. Ces grottes recèlent des traces de l'homme préhistorique. Donc nous sommes allés à la rencontre de monsieur Abdennouri Rachid, qui va nous parler de l'importance de ce site sur le plan de la paléontologie.
Nous sommes donc au site d'Afalou avec monsieur Abdennouri Rachid, responsable au niveau de l'agence d'archéologie de Béjaïa. Monsieur Abdennouri, ce site, qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour l'histoire du pays? Et puisque vous nous avez dit que c'est un site universel, qu'est-ce qu'il représente pour l'histoire de l'Algérie et l'histoire universelle?
Bon, salam alaikum. D'abord, donnant la situation géographique du site, le site d'Afalou est situé à 35 km à l'est de Bouji, en allant vers Ziyama. Exactement, sur la route de Jijel, un peu après Melbou, au lieu dit Falaise. Donc c'est un site qui a été découvert dans les années 1926-29, qui a été fouillé par Camille Arambourg, qui a été sondé par ce paléontologue français. Donc c'est un site très important qui recèle beaucoup de richesses archéologiques et culturelles de l'homme préhistorique qui s'appelle l'homme de Falou, donc qui donne le site qui donne son nom à ce type humain c'est le premier homo sapiens en Afrique du Nord. Donc on y a trouvé une cinquantaine d'individus, de squelettes, donc qui ont permis l'étude dans le détail de ce type humain qui était justement un grand pêcheur, parce qu'il habite aux abords de la mer.
Oui, et nous avons la mer en face. Mais pour nos auditeurs, l'homo sapiens, c'est quelle période, combien d'années?
Homo sapiens, donc, c'est le type humain qui a succédé le type... Donc l'homme atérien, dont on n'a pas de connaissance en Algérie, en tous les cas, l'homme atérien n'est pas connu du point de vue anatomique ou squelettique, si je peux dire. Donc on peut dire que l'homme...
Atérien, c'est un autre site en Algérie, de Bel-Ater.
Atérien, oui, Bel-Ater, l'Atéri, à Tébessa, qui a toujours... C'est le site éponyme qui a donné son nom donc, à cette civilisation.
Est-ce qu'on peut dire que c'est son descendant?
On peut dire que cet homo sapiens, donc l'homme d'Afalou, est le descendant direct, sinon le successeur de l'homme de Néandertal, donc, qui a vécu en Europe. Seulement en Afrique du Nord, l'homme de Néandertal n'est pas bien identifié, seulement au Maroc, dans certaines grottes comme Dar Sultan. On a pu quand même identifier l'homme de Néandertal, c'est donc l'artisan de la civilisation moustérienne. Et comme la civilisation ibéro-maurisienne, donc, qui est une civilisation faite par ce type humain qu'on appelle l'homme de Falou, qui a succédé donc, dans le temps à l'atérien, donc je vous ai dit que le type humain atérien, il n'est pas identifié en Algérie ni en Afrique du Nord d'ailleurs. On n'a pas trouvé ces ossements, c'est une situation énigmatique.
Donc encore un grand point d'interrogation.
C'est un grand point d'interrogation étant donné que, en termes de corrélation de civilisation, l'Atérien est considéré comme... il synchrone la civilisation en Europe de paléolithique supérieur. Et comme ici, en Afrique du Nord, on n'a pas le paléolithique supérieur, on a seulement l'épipaléolithique, donc on ne pourrait pas parler de paléolithique supérieur en Algérie, étant donné que les civilisations qui identifient le paléolithique supérieur, comme l'Aurignacien, et ainsi de suite, n'existent pas... en Afrique du Nord. La typologie lithique, c'est-à-dire l'industrie de la pierre taillée, diffère nettement de l'Europe. Et puis, effectivement, même les migrations humaines pendant cette période, la préhistoire, il y a des controverses. Donc, il y a des archéologues qui disent que l'empire historique qui a ramené des civilisations d'Europe vers l'Afrique du Nord. Et nous, en tant que préhistoriens algériens, on dit que c'est le contraire. Même une théorie atteste bien que l'empire préhistorique d'Afrique du Nord a franchi le détroit de Gibraltar pour aller faire...
Pour aller semer vers d'autres contrées.
Exactement, même pour chasser l'homme de Néandertal de l'Europe de l'Ouest.
Très bien.
Et là, justement, actuellement, les fouilles sont en train de... Vous m'avez dit tout à l'heure, vous nous avez dit hors antenne qu'il y a des travaux de reprise des fouilles pour mieux identifier les caractéristiques de cet homme d'Afalou.
Oui, l'historique des recherches du site. Donc, nous avons sa découverte dans les années par Camille Arambourg, c'est un paléontologue français, vers les années 20. Donc, il a été sondé, il a tout de suite découvert sa richesse archéologique en tant que site très important, donc qui est connu à l'échelle internationale. Et par la suite, lors de l'élargissement, un projet d'élargissement de la route, le site était menacé. Il a fallu dépêcher une équipe de préhistoriens algériens pour le fouiller vers les années 83. Depuis 83 jusqu'à 91, il a été successivement et régulièrement fouillé. Donc, c'est pendant cette période qu'il a, par l'équipe du CRAP, donc les fouilles ont été menées par le docteur Hachi Slimane, donc qui a quand même découvert que le site est beaucoup plus important que le croyaient même les Français, parce que il a livré d'autres indices et d'autres éléments secrets, justement, à savoir l'art. Justement, cet homme préhistorique, Bougiot, si je peux dire, était aussi un artiste, parce que l'homme épipaléolithique, il n'était pas connu auparavant pour avoir été un artiste, donc qui s'intéressait même des formes de statuettes, de l'art en général. Alors que les dernières fouilles ont pu nous fournir des indices qui disent que cet homme était effectivement un artiste, et c'est une révolution.
Est-ce qu'on a découvert un art rupestre ou quelque chose qui permet d'affirmer ce que vous dites ?
Exactement, j'ai dit statuettes, donc ils ont trouvé des statuettes zoomorphes en terre cuite sur le site. Donc c'est des statuettes en terre cuite qui représentent des animaux qui vivaient à l'époque. Donc cet homme préhistorique n'a pas fait de peinture rupestre ou de pariétal. Il a pu faire l'expression de son art à partir de la sculpture ou la terre modelée.
Depuis 1991, les travaux de recherche ont été un peu contrariés par la situation sécuritaire dans le secteur. Est-ce que les fouilles vont reprendre les travaux de recherche de l'équipe du CRAP?
Oui, les dernières informations qu'on a pu avoir en tant que l'antenne archéologique de la région, nous croyons savoir que les fouilles vont reprendre cet été. Il reste à avoir un complément d'information, si c'est effectivement une information qui peut être fiable.
Après les grottes d'Afalou, nous nous sommes rendus, toujours en compagnie de Malika et Hamid, au musée de Bijaya.
Nous savons que le centre historique de Béjaïa possède des monuments historiques qui témoignent humblement de 60 000 ans d'histoire. Alors actuellement, nous nous trouvons au musée de la ville, musée Borj Moussa. Pour nous en parler, monsieur Rihi Khlef, qui est attaché de conservation et de valorisation, circonscription archéologique de Béjaïa. Monsieur Adnouri Rachid, attaché de conservation et de valorisation archéologique, la spécialité la préhistoire. Et monsieur Idiren Hakim, qui est responsable de la circonscription archéologique. Comme je disais il y a quelques secondes, nous sommes donc en plein musée, le musée de Borj Moussa. Et puis peut-être brièvement, l'historique de ce musée, il date depuis combien d'années qu'il a construit monsieur Rihi Khlef?
Très bien. D'abord, on vous souhaite la bienvenue au siège, d'abord à la ville de Béjaïa, et plus exactement au sein du musée de cette ville. Donc, nous allons commencer par vous donner un petit aperçu historique concernant la création de ce musée. Je tiens d'abord à vous informer que le musée de Béjaïa, le premier musée de Béjaïa, a été fondé en 1902 par M. Kazoban. Et c'était, ou bien son siège, c'était l'actuel siège de la Radio Souman, qui a été fondé en 1902, nommé M. Kazoban, premier conservateur de ce musée, car il a offert toutes ses collections de la conchyliologie, entomologie, ornithologie au conseil municipal, qui les a acceptées et l'ont nommé par la suite en tant que premier conservateur du musée. Donc le musée a fonctionné jusqu'en 1987 par la commune de Béjaïa. Et avec la création de l'Agence nationale d'archéologie, là où se trouve actuellement dans ce monument classé, 1903. Donc c'est le château espagnol, le fort impérial. Ce monument a été construit par les Espagnols entre 1510 et 1555, c'est-à-dire date de l'occupation espagnole. D'après certains écrits, on dit que ce monument a été construit sur les ruines d'un ancien château de l'époque hamadite, c'est-à-dire 11e siècle. Mais on n'a pas de preuves archéologiques qui peuvent nous confirmer ces dires ou bien ces écrits. Donc, ce monument était occupé d'abord par les Espagnols, par la suite, il y avait l'intervention des Turcs, les deux frères Barbaros, Haroj et Khayreddin, qui n'ont pas pu chasser les Espagnols, mais grâce à Salah Pacha, qui est venu depuis Alger, pour chasser les Espagnols en 1555. Donc, les Turcs aussi ont occupé ce fort. Par la suite, c'est-à-dire à partir de 1833, date de l'occupation française, ce fort est devenu une caserne militaire appelée Fort Barral, selon le général Barral. Et il y avait même, ils ont procédé à pas mal de transformations architecturales, que ce soit au niveau interne ou externe du fort. Au niveau intérieur, ils ont créé un autre espace, c'est-à-dire ils ont construit une sorte de mezzanine, coupé l'espace de la grande salle en deux. Ils ont construit l'administration militaire sur la terrasse. Ils ont aussi fait des rajouts, c'est-à-dire ils ont construit 12 cellules de torture adossées au mur est du fort. Bon, à partir de 1962, ce fort a été utilisé par l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, pendant 2 ans. Mais depuis 1964 à 1987, ce fort a été complètement abandonné. Donc je dis bien abandonné, donc c'était le lieu préféré des gens qui vivent à la marge de la société, entre autres toxicomanes, flambeurs, ainsi de suite. Il y a eu même certains crimes qui ont été faits à l'intérieur du fort.
Donc c'est un monument chargé d'histoire, entre
effectivement,
guillemets.
Même l'histoire contemporaine, effectivement.
Voilà. Pour revenir à l'origine de cette construction à l'époque espagnole, est-ce qu'il a été construit dans un objectif défensif ou là pour quelle raison?
Effectivement, c'était le siège du commandement du commandant de la flotte espagnole, c'était Pedro de Navarro. Donc c'était le lieu du commandement. Bon, effectivement, il a été construit selon les normes défensives, c'est-à-dire à caractère militaire, dont on voit l'épaisseur des murs qui dépasse parfois 2 mètres, allant jusqu'à 3 mètres. On voit surtout le côté nord du fort qui est fait en forme de proue de navire. Et la hauteur, parfois, elle dépasse 15 mètres. Et même, ils ont fait une sorte de crépissage de façon à éviter toute escalade de l'ennemi.
Est-ce que ce personnage faisait partie des officiers de l'armada de Charles Quint? Ou est-ce que c'est la même période ou la...
Non. Charles Quint vient par la suite. On dit d'accord. Même Charles Quint a visité, a séjourné même à l'intérieur du fort en 1541. D'ailleurs je vais revenir sur ça. Les Espagnols, quand ils ont occupé la ville de Béjaïa, Ils ont occupé uniquement la ville. Donc, ils ont construit ce fort. Ils ont construit aussi le château qui se trouve à la Kasbah de Bjaïa. Ils ont occupé aussi le fort de la mer, bien ce qu'on appelle le fort Sidi Abd al-Qadr. Donc, forme de triangle. Et il y a même des passages souterrains, c'est-à-dire des tunnels, probablement,
qui
reliaient les trois places occupées par les Espagnols. Et d'après un bel article qui a été fait par Paul Windsor, Bougie Place Forte Espagnole, en 1932, dans le recueil Notices et Mémoires de la Société archéologique de Constantine, au cours de la visite de Charles Quint, il a même dépêché un architecte italien, Librano, pour achever ses travaux souterrains. Donc, c'est des textes qu'on retrouve dans la Revue Africaine, entre autres. Bon, je reviens aussi à l'histoire de ce musée.
Pour terminer votre description, il y a, en plus de ces trois forts en forme de triangle, il y a quand même le fort de Gouraya qui surplombait, donc qui faisait le office de guet général. Quoi.
C'était un poste de vigie, en fait.
Poste de vigie.
Tourné vers la mer, principalement.
Voilà, principalement. Par contre, le fort en lui-même, Borj Moussa, est un fort qui a été bâti spécialement pour surveiller l'arrière-pays de Bougie et en même temps avoir une vue sur la mer du côté de l'Est. Voilà.
Donc il y a une dimension stratégique et défensive en même
Effectivement.
Temps.
Effectivement. Donc si on revient un petit peu à la dénomination Borj Moussa, donc il faut un petit peu vulgariser ce mot, Borj Moussa. Au cours de l'occupation espagnole, il y avait 7 marabouts bougiottes qui ont essayé par tous les moyens de défendre ce lieu. On dit que c'est un lieu de culte aussi. D'ailleurs, jusqu'à présent même, quotidiennement, il y a des vieilles qui viennent allumer une cierge en la mémoire des 7 marabouts. Et le premier qui est mort, qui est tombé au champ de bataille, c'était, il avait comme prénom Moussa. C'est pour cette raison qu'actuellement, on l'appelle Borj Moussa.
Après nos informations, nous retrouverons M. Aïssani qui va nous parler d'une khazina, donc une espèce de bibliothèque contenant des manuscrits anciens qui a été découverte du côté de la région de Bni Urtilan.
يا بجاي الناس بسجعان وانتي يا بلد الكرامة سيدي الصوفي مو من البران يما دورة يا الزعيمة فيك لهنا فيك الفرح فيك 99 والي مدينة الصلح يما قورا يجبلها عالي فيك لهنا فيك الفار فيك 99 والي يا مدينة الصلح يما قورا يجبلها عالي إن شاء الله ينجح ربي يزيدك القبا والشان بلاد الطلبة والعلامة يا بجاي الناسك سجعان وانتي يا بلاد القرامة سيدي الصوفي مول البرهم يما كورا يا الزعيمة سيدي عيسى مقبل البحر هو عساس على ولادي ولي معروف وظاهر ياك مرصي حدا جندك سيدي عيسى قبل البحر هو عساس على ولادك ولي معروف وظاهر ياك مرصي حدا جندك نطلبوه في الليل والنهار يشفع فينا وفي الجيران منا نالو السلامة
يا بجاي الناس سجعان وانتي يا بلد الكرامة زيد الصوفي دون البرهن يما دورة يا الزعيمة سيدي عبد القادر ولي قوي من صغري ومن زوره الصلاة النبوي الله ينفعنا باركته سيدي عبد القادر ولي قويك من صغري ومن زوره مقام الصلاة النبوي الله ينفعنا باركته نهار الأربعاء شبع ونجاوي الناس يجي وهم من كل مكان ولي الله عنده حكمة يا بجاي الناس كسجعان وانت يا بلاد الكرامة زيد الصوفي من البرهان يما دورة يا الزعيمة لمين نهدي للصالحين باهي يشفعوا في ولاد بلادي القويين راني سادو دعوت شدادي لامي نهدي للصالحين باهي شفعوا في ولاد بلادي في بلادنا مازال قويين راني سادو دعوت شدادي سيدي فرج الله عوني في الحين اسمي ما شاء الله يبان تشارك فيك الرحمة يا بجاي الناس سجعان وانت يا بلد الكرامة سيد الصوفي مولى البرهان يا مدورة يا الزعيمة يا مدورة يا راهي قوية بالمعجزة تظهر برهنها يرى عندها وجب عليا راني في الغربة ونحلم بيها يما كورا يا راهي قوية بالمعجزة تظهر برهنها يرى عندها وجب عليا راني في الغربة ونحلم بيها هي تسمى مفتاح الجاية بها يحلوا علينا البيبان بيبان السعد والكرامة يا بجاية الناس سجعان وانت يا بلاد الكرامة تقصوا في مول البرهان يما كورا يا الزعيمة راهم ولادك على وقدرك من فضلك ارضي عليهم حشمتك لتخيبهم راهم ولادك على وقدرك من فضلك نرضي عليهم ياك بيهم ظهر اسمك حشمتك لتخيبهم نساو رجل ياك بيوك فيك السر بالعدنان يا بجاي الناس سجعان وانت يا بلد الكرامة زيد الصوفي مول البرهان يما دورة يا الزعيمة سيدي فرج الله راهو شد السيارة عنده يا محلاها مقام مبني فوق جبال النبع وتصحيحة وشفناها سيدي فرج الله راهو شفنا السيارة عنده يا محلاها مقام مبني فوق جبال النبع وتصحيحة وشفناها